responsable de la maison Saint-Vincent-de-Paul du séminaire de Paris, professeur ordinaire à la faculté Notre-Dame, et vous avez écrit entre autres des articles sur l'Église et la Trinité, sur un peu du corps de l'Église, et donc vous êtes venu nous parler sur la vision organiciste paulinienne. Donc, merci beaucoup d'être venu. Merci.
Oui.
Merci beaucoup d'être venu et on vous écoute.
Donc vous avez un cycle actuellement sur Saint-Paul. Je vais vous parler de Saint-Paul à partir du thème de l'Église comme corps du Christ chez Saint-Paul. Donc nous allons dans une première partie travailler quelques textes pauliniens en deux phases. Et ensuite je vous montrerai comment cette théologie de l'Église comme corps chez Saint-Paul a eu un retentissement dans un certain nombre de textes. Je vous parlerai de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de Vatican II essentiellement. Et puis nous verrons aussi, en conclusion, le rapport entre Église et Eucharistie, toujours à partir du thème du corps du Christ. Vous voyez peut-être déjà qu'il puisse y avoir un lien. Donc merci pour, de m'avoir invité dans cette petite présentation. Mon métier, ce n'est pas du tout Saint-Paul. Mon métier, c'est la théologie dogmatique et en particulier l'ecclésiologie, c'est-à-dire la théologie de l'Église. Qu'est-ce que l'Église dans le plan de Dieu? Quel est son rapport au Christ, à la Trinité? Comment se fait-il qu'il y ait des hommes dans l'Église? Ce qui complique beaucoup les choses, quand même.
Hein,
c'est le truc, hein, c'est le truc, voilà. Etc. Donc nous allons essayer de recueillir la richesse de cet enseignement de Saint-Paul sur l'Église désignée comme corps du Christ. Alors, l'expression est présente chez lui dans de nombreux passages, mais nous pouvons déjà distinguer trois sens de l'expression « corps du Christ ». C'est d'abord, en premier, le corps historique de Jésus, le corps crucifié de Jésus. Nous lisons en Romains, chapitre 7, verset 4, « Vous de même, vous avez été mis à mort à l'égard de la loi par le corps du Christ. » Vous demanderez au père Urfels de vous expliquer ce verset très difficile, des questions de la loi, du corps, plein de choses. Donc le corps historique crucifié de Jésus, au fond, c'est le sens fondamental si vous parlez du corps du Christ. Le Christ est le Verbe incarné, il a donc un corps. Et c'est de cela que nous devrons toujours nous souvenir. Le deuxième sens, c'est le corps eucharistique. Je lis 1 aux Corinthiens, chapitre 10, verset 16. « Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ ?» Communion au corps du Christ. Et nous reviendrons dans la dernière partie sur ces expressions appliquées à l'Eucharistie. Ou un peu plus loin, au chapitre 11, verset 27, « Quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement aura à répondre du corps et du sang du Seigneur. » Fin de citation. Et le troisième sens qui nous intéresse ce soir, c'est pour désigner l'Église. Mais nous devons toujours garder à l'esprit les deux autres sens lorsque nous parlerons de l'Église comme corps du Christ. En effet, la force de cette expression, de cette désignation appliquée à l'Église, réside précisément dans le réalisme de l'incarnation. Et donc il faudra toujours prendre également au sens le plus réaliste cette désignation d'Église comme corps du Christ. Et donc c'est affirmer le lien du chrétien à Jésus, vrai Dieu et vrai homme, le lien du chrétien à l'humanité réelle de Jésus-Christ, mort, ressuscité et glorifié dans son corps. Et puis nous reviendrons, donc je disais en dernière partie, en conclusion, sur le rapport corps eucharistique, corps ecclésial. Alors revenons à Saint Paul tout de suite. Paul n'est pas le premier à parler de corps pour désigner un groupe humain. C'est même un lieu commun de la culture, de la philosophie antique, d'utiliser ce mot de corps pour parler de l'État ou d'une communauté humaine. Alors nous trouvons ça chez à peu près tous les auteurs, chez Platon, chez Aristote, dans le Politique, chez Cicéron, dans les Philippiques, et puis nous avons chez Tite Live, le célèbre apologue de Ménénius Agrippa, qui, lors de la révolte de la plèbe contre le Sénat, raconte cette petite histoire du rôle de l'estomac dans le corps. Ça vous rappelle quelque chose? Tout le monde a lu Tite Live ici. Voilà. Donc le rôle de l'estomac dans le corps. Petit apologue d'ailleurs qui aura beaucoup de fortune, qui sera repris par La Fontaine dans une fable qui n'est pas très connue et qui s'appelle « Les membres et l'estomac ». Je devais par la royauté avoir commencé mon ouvrage, à la voir d'un certain côté, Messer Gaster en est l'image. Donc Gaster, c'est l'estomac. Et donc il compare la grandeur royale de son temps à l'estomac. Toujours dans la ligne de cet apologue ancien, donc appliqué aux relations entre différents corps de l'État qui ne peuvent bien fonctionner que si chacun remplit son rôle. Et chacun a besoin de l'autre. Bon, très bien, nous trouvons ça chez Sénèque, Épictète, Plutarque, bien. Et cela dit l'unité morale des membres qui concourent au but commun. En l'occurrence, la paix, la prospérité, le bien-être du corps social. Alors regardons saint Paul dans la première aux Corinthiens, au chapitre 12. Saint Paul nous parle des biens spirituels dont jouissent les Corinthiens et qui doivent servir au bien commun. Alors, il désigne les apôtres, les prophètes, les docteurs, les miracles, guérisons, assistance, le gouvernement, les langues, l'interprétation, donc tout cela qui caractérise l'assemblée des Corinthiens. Et il poursuit au verset 12. De même, en effet, que le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et que tous les membres du corps, en dépit de leur pluralité, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Ainsi en est-il du Christ. Et un peu plus loin, au verset 27, il passe au « vous ». Deuxième personne du pluriel. Or, vous êtes, vous, le corps du Christ et membres, chacun pour sa part. Donc, dans les rivalités qui sont présentes dans l'église de Corinthe, il est bon que chacun se rappelle cette convergence, cette utilité des biens spirituels pour tous, pour le corps dont chacun est membre. Mais la différence fondamentale avec l'usage antique philosophique de cette image du corps, c'est que les biens spirituels décrits viennent d'en haut. D'ailleurs, dans ce début du chapitre 12, saint Paul, à 9 reprises, mentionne l'Esprit Saint. C'est donc bien l'Esprit Saint qui est le bien supérieur, qui sera ensuite désigné à travers la charité, et qui est à rechercher par tous, et qui fait l'unité de tous. Alors nous trouvons la même idée dans un texte parallèle, dans l'Épître aux Romains, également au chapitre 12, versets 4 et 5. Donc Romains 12, versets 4 et 5. Car de même que notre corps en son unité possède plus d'un membre et que ses membres n'ont pas tous la même fonction, ainsi nous à plusieurs, nous ne formons qu'un seul corps dans le Christ, étant chacun pour sa part, membres les uns des autres. Fin de citation. Donc cela dit, en plus, la dépendance mutuelle des chrétiens, être membres les uns des autres. Dans la première aux Corinthiens, un peu plus haut, chapitre 6, Paul demande « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ ?» Dans un contexte tout différent de celui du chapitre 12, au chapitre 6, il est question du problème de fornication. Et l'expression donc de corps du Christ ou de membre du Christ, les corps des Corinthiens qui sont membres du Christ, exprime une union spéciale au Christ, une appartenance de toute sa personne au Christ. Et au principe de cette union au Christ, il y a la possession de l'Esprit. Je reviens au chapitre 12, verset 13. « Aussi bien est-ce en un seul esprit que nous tous avons été baptisés en un seul corps. » Ou Romains 8, 9, « Qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. » Tenons tout cela en tête, après ce rapide parcours de quelques extraits des Romains et de la première aux Corinthiens, et arrivons à un deuxième groupe de textes, Éphésiens et Colossiens. Là, nous observons un déplacement dans l'utilisation de cette image du corps. D'abord, il y aura une identification explicite de l'Église et du corps, et d'autre part, ce thème va être étendu au thème de la tête du corps, ce qui n'apparaissait pas dans les extraits jusqu'à présent. Donc si je résume, nous avons deux stades de la pensée paulinienne dans ce corpus. D'abord, l'union dans le Christ est décrite par l'analogie corps-membre, mais maintenant, le Christ va être désigné comme la tête, la partie la plus importante du corps qu'est l'Église. Ainsi, Colossiens 1, 18, chapitre 1, verset 18, le Christ est aussi la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Un peu plus loin, au verset 24, « Je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps, qui est l'Église. » Verset proche, dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 22, « Il, donc Dieu, l'a constitué, le Christ, au sommet de tout, tête pour l'Église, laquelle est son corps. » Là, tout est rassemblé, cette idée du Christ tête et de ce corps qu'est l'Église. Donc la tête, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est un principe de vie, un principe de croissance du corps, un principe d'unité et de cohésion du corps. Il est donc nécessaire de s'attacher, dit Paul, à la tête, dont le corps tout entier reçoit nourriture et cohésion par les jointures et ligaments pour réaliser sa croissance en Dieu. Fin de citation, Colossiens, chapitre 2, verset 19. Colossiens 2, 19. Au chapitre 4 des Éphésiens, qui est un chapitre central de cette épître, Paul développe le thème de l'unité. Unité qui parcourt toute la lettre, mais qui est spécialement désignée dans ce chapitre 4 par la mention de la diversité des dons qui organise la communauté. Alors à nouveau, nous avons une... Oh, bonsoir, monsieur le curé.
Écoutez-le, c'est un bon... Je m'en vais parce que je ne suis pas élève, moi.
Donc, à nouveau, une liste, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, etc. Et au verset 12, le Christ, dit Paul, organise les saints pour l'œuvre du ministère en vue de la construction du corps du Christ. Donc, l'œuvre du ministère en vue de la construction du corps du Christ. Nous avons... deux champs qui se recouvrent ici, puisque la construction, c'est un champ lexical différent de celui du corps. On parle de croissance du corps et de construction d'un édifice. Ici, les deux sont conjoints. La construction du corps. Au verset 13, « Ne plus faire qu'un dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu, afin de constituer cet homme parfait dans la force de l'âge qui réalise la plénitude du Christ. » Fin de citation. Donc là, c'est à nouveau homogène. Ce corps, c'est celui d'un homme qui parvient, dans la force de l'âge, à sa plénitude, ce qui est celle du Christ. Et je poursuis versets 15 et 16. « Ainsi, nous grandirons, ainsi nous grandirons de toute manière vers celui qui est la tête, le Christ, dont le corps tout entier reçoit concorde et cohésion, par toutes sortes de jointures qui le nourrissent et l'actionnent, selon le rôle de chaque partie, opérant ainsi sa croissance et se construisant lui-même dans la charité. Fin de citation. Donc c'est une conclusion de cette péricope qui réunit plusieurs idées, donc la tête qu'est le Christ, le corps qu'est l'Église, cette idée de croissance, l'idée de cohésion, mais d'une cohésion et d'une unité qui est elle-même différenciée, car il y a des jointures. Il y a la tête, il y a la jointure, et une jointure, donc comme un coude, ça fait le lien entre plusieurs membres, donc quelque chose d'ordonné, d'articulé, de construit, et donc avec la croissance dans la charité. Et puis je termine par le chapitre 5, célèbre chapitre 5, versets 21 à 33, qui reprend l'image de la tête et du corps, mais d'une manière beaucoup plus complexe, puisqu'elle est reliée à l'image de l'épouse et de l'époux, de l'époux et de l'épouse, pour parler du rapport de l'Église au Christ. Donc le passage mêle plusieurs plans symboliques pour rendre compte d'une morale domestique, de la manière de se comporter entre époux, tout entière à l'imitation de Dieu et du Christ, qui, dit Paul, vous a aimé et s'est livré pour nous. D'où l'injonction, Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle. Donc le rapport époux-épouse dans le mariage chrétien et le rapport du Christ et de l'Église qui est désigné comme le mystère grand. Au passage, le Christ étant désigné comme la tête de son corps d'une manière qui lui permet de le nourrir, d'en prendre soin et de rendre belle son épouse en prenant soin de son corps. Alors, faisons la synthèse de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Vous avez ça sur vos feuilles, cinquièmement reprise, donc union, subordination et croissance. L'union d'abord, c'est une union dans le Christ. C'est la force de cette image d'exprimer une union indissociable des chrétiens, non seulement avec le Christ, mais dans le Christ. Non seulement avec le Christ, mais dans le Christ. Nous retrouvons à la fin de la prière eucharistique, hein, par le Christ, avec le Christ et dans le Christ. Tout honneur et toute gloire au Père dans l'Esprit. Donc union dans le Christ et avec le Christ et par le Christ, mais aussi des chrétiens entre eux. Du fait de cette incorporation, de cette appartenance commune au Christ, les membres, les chrétiens, sont unis entre eux. De plus, cette unité qui provient du Christ se réalise les uns par les autres également. Il y a une sollicitude mutuelle des membres, indiquée dans la première aux Corinthiens, et l'existence de ces jointures qui nourrissent et actionnent le corps selon le rôle de chaque partie, une responsabilité des uns vis-à-vis des autres. Et cela se fait grâce à l'esprit d'unité, l'esprit de communion. Une union dans le Christ, une union des chrétiens entre eux, grâce à l'Esprit Saint. Union, mais aussi subordination de l'Église au Christ, sa tête, donc son chef, caput, principe, à la fois et celui qui commande, le chef, la tête. Et également l'image dit une croissance vers une plénitude, donc une image dynamique. Il n'y a pas de corps sans tête ni de tête sans corps. Éphésiens 1, 23, Dieu l'a constitué au sommet de tout, le Christ, il l'a constitué au sommet de tout, tête pour l'Église, laquelle est son corps, déjà cité, et Paul poursuit, la plénitude de celui qui est rempli tout en tout. Une plénitude qui est ainsi désignée. Que ce corps soit en croissance, cela est dit à plusieurs reprises par saint Paul, nous l'avons entendu, aussi bien en utilisant le vocabulaire de la croissance humaine que celui de la construction, afin de constituer cet homme parfait dans la force de l'âge qui réalise la plénitude du Christ. Nous voilà donc en possession de ces éléments, alors que nous pourrions croiser avec d'autres thèmes que vous avez vus. Par exemple, dans la première aux Corinthiens, il a été question des charismes, de ces dons de l'esprit en vue du bien commun du corps. Et ce qui sert à la fois de critère ultime de discernement des charismes et de principe opératoire de l'unité, c'est la charité, grâce aux dons de l'Esprit Saint. Donc nous rencontrons d'autres thèmes de la théologie paulinienne à travers celui du corps de l'Église, corps du Christ. Alors je voudrais donc montrer comment cette théologie du corps a été utilisée de deux manières très différentes. Et je commençais par ce célèbre texte de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Vous avez la feuille tous ? Elle n'est pas parvenue jusqu'au premier rang, donc c'est un recto verso, j'ai mis quelques textes, mais c'est surtout maintenant qu'elle va nous servir. Ça y est, ça va. Donc ce texte se trouve dans le manuscrit B, troisième feuille, verso. À l'oraison, je lis, mes désirs me faisant souffrir un véritable martyr, j'ouvris les épîtres de saint Paul afin de chercher quelques réponses. Les chapitres 12 et 13 de la première épître aux Corinthiens me tombèrent sous les yeux. J'y lus dans le premier que tous ne peuvent être apôtres, prophètes, docteurs, etc., que l'Église est composée de différents membres et que l'œil ne saurait être en même temps la main. La réponse était claire, mais ne comblait pas mes désirs, elle ne me donnait pas la paix. Donc le désir de sainte Thérèse, c'est de connaître sa vocation, parce qu'elle veut avoir toutes les vocations, elle veut tout faire dans l'Église, être missionnaire, être martyr, être docteur, être prophète, être prêtre, enfin tout. La réponse était claire, mais ne comblait pas mes désirs, elle ne me donnait pas la paix. Comme Madeleine, se baissant toujours auprès du tombeau vide, finit par trouver ce qu'elle cherchait. Ainsi, m'abaissant jusque dans les profondeurs de mon néant, je m'élevais si haut que je pus atteindre mon but. Sans me décourager, je continuais ma lecture, et cette phrase me soulagea. Recherchez avec ardeur les dons les plus parfaits, mais je vais encore vous montrer une voie plus excellente. Et l'apôtre explique comment tous les dons les plus parfaits ne sont rien sans l'amour. Que la charité est la voie excellente qui conduit sûrement à Dieu. Enfin, j'avais trouvé le repos. Considérant le corps mystique de l'Église, je ne m'étais reconnu dans aucun des membres décrits par saint Paul, ou plutôt, je voulais me reconnaître en tous. La charité me donna la clé de ma vocation. Je compris que si l'Église avait un corps, composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous ne lui manquait pas. Je compris que l'Église avait un cœur et que ce cœur était brûlant d'amour. Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur sang. Je compris que l'amour enfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux, en un mot, qu'il est éternel. Alors, dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écrié, « Ô Jésus, mon amour, ma vocation, enfin je l'ai trouvée, ma vocation, c'est l'amour. »
Oui, j'ai trouvé ma place dans l'Église, et cette place, ô mon Dieu, c'est vous qui me l'avez donnée. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, ainsi je serai tout, ainsi mon rêve sera réalisé. Alors, qu'est-ce qu'il y a de remarquable dans ce passage du manuscrit B ? C'est la manière dont Sainte Thérèse interprète, de manière très juste, et prolonge l'interprétation courante de ce passage de Saint Paul. Elle l'interprète au sens de l'unité, au sens de ce qui constitue le corps avec ses différents membres, très bien, mais elle le prolonge à l'aide de l'image du cœur dans le corps. Autrement dit, de situer l'amour dans un organe qui est le cœur, la dévotion au cœur du Christ est présente depuis quelques siècles déjà en France quand elle écrit cela. Et donc un organe dans lequel elle va pouvoir être non seulement au centre, mais diffuser ce qui la fait vivre à tous les membres. Et ce qu'elle diffuse ainsi, c'est l'amour qui vient du Christ, c'est la charité surnaturelle. Donc non seulement elle trouve la réponse à la question de sa propre vocation, de ce pourquoi au fond elle est au Carmel, pourquoi elle prie, elle fait oraison, pourquoi elle vit la charité fraternelle avec ses sœurs, mais comment elle arrive à concilier tous ces désirs qui se pressent en elle à l'aide d'une référence scripturaire précise et interprétée de manière cohérente. Alors la deuxième application, je ne vais pas tout lire parce que le temps court. Et donc c'est la manière dont Lumen Gentium dans son chapitre 7, dans son numéro 7, pardon, parle là encore de l'Église comme corps et interprète les données pauliniennes. Ce numéro 7 se trouve dans le chapitre 1 de la Constitution sur l'Église, un chapitre qui est tout entier placé sous le signe du mystère de l'Église, des ecclesiae mysterio. Le mystère ici désigne une notion paulinienne, le mysterion paulinien, qui est le dessein de Dieu révélé en Christ et qui a sa voie de diffusion, son moyen de diffusion par la prédication évangélique, ce qui associe au mystère du Christ l'Église elle-même, de façon subordonnée. Donc il y a beaucoup de connexions entre le thème du mystère paulinien et le thème du corps. Ce serait encore une autre voie à explorer. Le début de Lumen Gentium déploie cette idée du dessein divin dans l'histoire à partir de la Trinité, l'œuvre du Père qui se réalise par l'envoi du Fils et de l'Esprit. Au numéro 5, le Concile fait le lien entre l'Église et le royaume à partir de la prédication du Christ. Je passe. Au numéro 6 et 7 vont être énumérer un certain nombre d'images et de désignations de l'Église à partir de l'Ancien comme du Nouveau Testament, mais en accordant une place privilégiée à l'image du corps. Parce que c'est plus qu'une image, c'est une désignation précise et fondée dans l'incarnation elle-même. Et donc c'est ce numéro 7 que je vous ai transcrit sur la feuille. Et je vais en relever quelques thèmes. Je surveille l'heure. Alors je lis le premier paragraphe, le premier alinéa introductif. Le Fils de Dieu, dans la nature humaine qu'il s'est unie, a racheté l'homme en triomphant de la mort par sa mort et sa résurrection. Et il l'a transformé en une créature nouvelle. Citation, donc, confère Galates 2 Corinthiens. Tout ce numéro 7 va être truffé de références à Saint Paul. En effet, en communiquant son esprit à ses frères,
qu'il rassemblait de toutes les nations, il les a constitués mystiquement comme son corps. Mystice, en latin, c'est l'adverbe pour renvoyer à l'encyclique de Pie XII, Mystici Corporis, le corps mystique, l'Église comme corps mystique. Donc c'est une initiative du Christ, Fils de Dieu, qui constitue ses frères, ceux qui ont été régénérés et introduits dans la filiation divine, il les constitue comme son corps. Pas comme un corps, mais comme son corps. Le deuxième alinéa va faire le lien avec les sacrements de la vie chrétienne. En effet, le baptême, dit le texte, fait entrer dans le corps, il incorpore, au sens étymologique, faire entrer dans le corps, et le Concile cite la première aux Corinthiens et la lettre aux Romains. L'Eucharistie, elle, procure la communion avec le Christ et entre nous, et c'est le chapitre 10 de la première aux Corinthiens qui est cité, j'y reviendrai un peu plus loin. Le troisième alinéa souligne le rapport entre unité et diversité, un thème très paulinien aussi. Le chapitre 12 de la première aux Corinthiens est évidemment évoqué ici. Diversité des membres et des fonctions, diversité des dons de l'Esprit, mais à l'intérieur d'une unité qui procède de l'Esprit Saint, thème qui sera repris un peu plus loin dans le numéro. L'Esprit comme principe d'unité. Dans les alinéas qui suivent, l'union est référée au Christ. Les membres lui sont conformés et, à l'inverse, le Christ est formé dans ses membres. Ils sont assumés, donc les chrétiens, les membres, dans les mystères de sa vie, configurés à lui. Un verbe qui est quasiment synonyme de conformer, être configuré au Christ. Ils sont associés à sa mort et à sa résurrection, en attendant de l'être à son règne. Ils sont associés à ses souffrances, comme le corps à la tête. Ils sont unis à sa passion pour être unis à sa gloire. Et enfin, le numéro s'achève sur une reprise de Éphésiens 5, avec le thème de l'époux et de l'épouse. Voilà, je n'ai pas le temps de commenter plus en détail ce numéro 7, qui est extrêmement riche. Reprise et interprétation, dans un document qui est tout entier centré sur ce qu'est l'Église, la Lumen Gentium, donc reprise de la théologie paulinienne du corps. Alors voyons maintenant, en conclusion, le grand 3, l'Eucharistie et l'Église. Donc revenons au rapport entre le corps ecclésial et le corps eucharistique. En tout cas, quelques jalons pour réfléchir à ce thème très fécond. Alors nous avons compris que l'Église ne pouvait être dite corps du Christ que parce que le Christ avait un corps, mort, ressuscité et glorifié, et que les chrétiens étaient incorporés au Christ, devenant unis à lui et en lui, et ainsi en communion avec les autres membres. Alors qu'en est-il du troisième sens, le sens eucharistique du corps? Quand nous entendons à la messe « Ceci est mon corps », le corps du Christ, c'est Jésus qui dit « Ceci est mon corps ». Il désigne le corps. Que devons-nous comprendre? Devons-nous comprendre aussi qu'il s'agit là de l'Église? Ceci est mon corps. Devons-nous comprendre que l'Église est engagée dans ce sacrement et que quelque chose d'ecclésial se joue dans l'Eucharistie? Il y a fort à parier que oui. Quand nous parlons de communion eucharistique, cela implique-t-il une communion de tous avec le Christ et dans le Christ? Mais en quoi consiste l'Église? Une communion en laquelle consiste l'Église? Donc vous comprenez bien et vous le vivez que communier au corps eucharistique du Christ vous fait entrer dans la réalité profonde de l'Église comme communion. Alors nous allons lire quelques textes qui vont nous aider à répondre à ces questions. D'abord dans la première aux Corinthiens. Non pas d'abord le passage qui relate l'institution de l'Eucharistie au chapitre 11, mais le chapitre 10 de la première aux Corinthiens. Donc je prends le verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ ? Parce qu'il n'y a qu'un pain, à plusieurs, nous ne sommes qu'un corps, car tous nous participons à ce pain unique. Fin de citation. Quel est le contexte ? Il s'agit de la résolution du problème des idolotites. Les repas sacrés dans lesquels on mange la viande qui a été sacrifiée à des idoles. C'est le contexte général et ça apparaît un peu plus loin dans la lettre. Mais aussi, c'est de la viande que vous trouvez à l'étal de votre boucher, parce que toutes les viandes étaient plus ou moins issues d'un sacrifice dans un temple. D'où au verset 14, l'invitation de saint Paul, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Saint Paul avance dans sa démonstration, qui se fait en plusieurs temps, en disant que communier à un repas sacré, c'est communier à celui à qui est offert le repas. C'est le principe général. Alors voyez le cas de nos assemblées. Nous partageons, nous aussi, un repas sacré, point commun avec les repas des païens. Mais nous communions au corps du Christ. Au verset 18, saint Paul fait le détour, c'est plus qu'un détour, mais évoque le sacrifice de communion en Israël, dans lequel la partie de la victime déposée sur l'autel, sanctifiée par l'autel, représentait Dieu, tandis que manger le reste de la victime permettait d'être en communion avec Dieu. Principe d'un sacrifice de communion. Concernant le repas sacré chrétien qu'est l'Eucharistie, trois éléments ressortent. D'abord des allusions à la scène, la coupe de bénédiction, de la bénédiction même du Christ, que nous bénissons de la bénédiction du Christ. La question à qui sommes-nous unis, à qui communions-nous ? Eh bien au Christ, à son corps et à son sang, alors que les idoles, elles, ne sont rien. Et donc, on ne peut communier valablement qu'avec Dieu, sinon c'est de l'idolâtrie. Et troisième point, en effet, pour nous, existe une koinonia, une communion entre nous. Comment donc un pain partagé peut-il être signe d'unité ? Un pain partagé, signe d'unité, parce que nous avons part ainsi au Christ lui-même. Donc le raisonnement est assez simple, quand vous communiez à la messe, vous ne communiez pas à n'importe quoi, comme ce soir nous avons communié à un gâteau ou à une tartiflette, donc chacun a mangé un morceau de la tartiflette, donc vous dites, chouette, on est tous unis par la tartiflette. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il a fallu partager la tartiflette, chacun en a un morceau, et l'union qui en résulte est quand même d'un niveau assez bas. Tandis que quand nous communions... Elle était formidable, cette tartiflette.
Pour les autres
tartiflettes. Oui, c'est ça, la tartiflette. Quand nous communions au Christ, c'est le Christ tout entier que chacun de nous reçoit. Donc non seulement il n'est pas divisé, mais c'est celui qui est possédé en commun par tous, quel que soit le nombre de ceux qui communient. Donc ce principe qu'est le Christ réalise la communion entre nous. Donc tous, nous recevons celui qui fait notre communion. Parce que tous, nous recevons le seul et unique Christ. incarné, mort, ressuscité et glorifié. D'où, autre manière de rentrer dans cette théologie paulinienne du corps, la citation de saint Augustin que vous trouvez. Alors, il y a toutes sortes de textes et de sermons dans lesquels saint Augustin reprend cette idée. Ici, je lis, donc deuxièmement, là, saint Augustin, « Si vous êtes le corps du Christ, c'est votre sacrement qui est placé sur la table du Seigneur. Vous recevez votre sacrement. Vous répondez « Amen, c'est vrai » à ce que vous recevez et vous y souscrivez en répondant. Tu entends ce mot « le corps du Christ ». Tu réponds « Amen ». Sois donc un membre du corps du Christ pour que ton « Amen » soit vrai. Soyez ce que vous voyez et recevez ce que vous êtes. Fin de citation. Soyez ce que vous voyez, le corps du Christ, et recevez ce que vous êtes, le Christ. Donc il y a identité par la communion sacramentelle entre le corps du Christ mort et ressuscité et le corps ecclésial dont la communion résulte de cette participation au seul corps du Christ. Autre citation que je n'ai pas reportée sur la feuille, « Nous avons été faits son corps, et par sa miséricorde, nous sommes ce que nous recevons. Vous avez été fait le pain du Seigneur, voilà ce que vous avez reçu. » Fin de citation. Donc l'Eucharistie fait et signifie l'Église comme corps du Christ. Donc l'Eucharistie est confectionnée par l'Église, l'Église célèbre l'Eucharistie, et en retour, cette Eucharistie, elle constitue l'Église et elle la signifie par le fait même du rite. Et je termine par quelques passages des prières eucharistiques que j'ai reportées sur vos feuilles. Alors, ce n'est pas exhaustif, on pourrait reprendre des passages plus larges. Donc dans la deuxième prière eucharistique, humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. En ayant part au corps du Christ, que nous soyons rassemblés en un seul corps, le corps ecclésial. Dans la troisième, tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. Donc ça, c'est le premier mouvement. L'Ecclésia est constituée par la convocation du Seigneur qui rassemble son peuple. Par le fait qu'il est rassemblé dans la communion, il peut présenter l'offrande, qui est l'offrande même du Fils. D'où le deuxième passage de la prière eucharistique 3, toujours. « Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. » Réalisation effective de ce dont le sacrement est le signe. Et dans la quatrième prière eucharistique, dernière citation, « Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. » Ceux qui participent au pain, au corps du Christ eucharistique, sont ainsi rassemblés en un seul corps, le corps ecclésial. C'est exactement le sens que nous donne saint Paul, alors cette fois dans le chapitre 11 de la première aux Corinthiens, où le discernement du corps est référé à ce qui est pris en commun, bien sûr, discerner le corps, c'est bien le corps du Christ, mais est référé aussi, dans le contexte immédiat de ce chapitre, à la charité entre les membres qui participent à ce corps. Si vous ne discernez pas l'Église, le corps du Christ que vous formez en vivant comme des sauvages et en vous servant n'importe comment et en oubliant le voisin, donc si vous ne vivez pas la charité dans le repas qui accompagne l'Eucharistie, eh bien, vous êtes en contradiction objective avec ce à quoi vous communiez. Ici, le corps ecclésial doit être respecté et vécu pour recevoir la vérité du corps eucharistique. À 10h32, je pense que c'est bien, je vais arrêter là. Donc ça va vous permettre de poser quelques questions, de montrer que la digestion de la tartiflette n'a pas trop amoindri vos capacités intellectuelles. Oui, il y a une question là, ou bien c'était juste pour... Non. Oui.
Moi, du coup, j'ai une question. J'ai cru comprendre que vous faisiez un parallèle entre la conclusion des prières eucharistiques, donc par lui, avec lui et en lui,
oui,
avec les trois formes de corps, du coup, d'union, de subordination et de croissance.
Ah.
Est-ce qu'on met, par exemple, en lui, ce serait l'union, par lui, ce serait la subordination, et avec
non.
lui, ce serait la croissance?
Non, j'y avais pas pensé. Faudrait réfléchir. Mais ça, j'ai pas fait le parallèle, mais on pourrait chercher de ce côté-là, oui, pourquoi pas.
J'ai aucune connaissance d'interprétation.
Par lui, avec lui, en lui. Ouais. En tout cas, ça indique l'union très forte. Mais l'Eucharistie en tant que nourriture est là pour faire croître le corps ecclésial. Cet aspect-là de nourriture qui est donné au corps en vue de sa croissance, de son affermissement, de sa croissance. Oui. Donc on aurait quelque chose aussi de ce côté-là.
La question, c'est que par, avec et dans, c'est assez polyen, alors il nous prend dans tous les sens, par
oui.
le Christ, par le Christ, c'est instrumental, c'est inclusif, il y a plein de...
Après,
bon, je pense que ça, c'est pas... Ouais, je sais, mais c'est pas idiot. On a le droit d'interpréter, ça s'appelle la doxologie, hein, cette partie de... Ouais, c'est pas idiot. Hein.
Le en Christ, c'est une désignation typiquement polynienne. Parce qu'on peut agir par quelqu'un, on peut agir avec quelqu'un, mais agir en quelqu'un, ça nous introduit dans le mystère même du Christ.
Pourquoi d'ailleurs c'est typiquement paulinien, le rang maintenant c'est... Pourquoi c'est... Parce qu'avec le Christ, c'est déjà pas mal, hein.
Ouais, c'est déjà pas mal, hein.
La première lettre sur les souffrances, enfin, dans les souffrances du Christ, moi, c'est ce que vous pensez.
Oui, mais pourquoi insister sur ce rang, oui.
C'est moi qui
le dis. Voilà, il y en a un, c'est bien. C'est vraiment son expérience du Christ, c'est une pensée. Dieu a révélé son Fils en moi.
Expérience personnelle de Paul. Alors, sa théologie est toujours enracinée dans l'expérience fondatrice de sa conversion. On peut toujours se rappeler ça. Et dans le passage de la loi à la grâce, et dans l'expérience propre de cette vie en Christ et aussi de son expérience de l'Église. Je suis Jésus que tu persécutes, un des versets les plus cités par saint Augustin quand il parle de l'Église. Je suis Jésus que tu persécutes, en enchaînant les membres de la voie, les membres du Christ.
Je vois un doigt, c'est bien,
oublié. Alors, j'ai une question sur une distinction que j'avais rapidement évoquée au début, mais peut-être pas attardée, je crois. La distinction entre corps et chair. Le corps n'est pas nécessairement chair, on est d'accord. Mais qu'est-ce qui fait que, par exemple, le corps sacramentel du Christ, qui est l'Eucharistie, ou le corps mystique, qui est l'Église, est autant corps du Christ que son corps de chair?
Eh bien, c'est au fondement de tout. Donc, la question porte sur le fait de l'incarnation. Plus que sur la question du vocabulaire entre soma et sarx.
Oui,
c'est, alors, ça serait ça.
C'est
ah, d'accord. Donc plutôt, la deuxième option. Donc le mot massivement utilisé par Paul, c'est soma. Alors, est-ce qu'il a fait intervenir le sarx de temps en temps, la chair, quand il oppose la loi de la chair à la loi de l'esprit?
Il dit que le Christ a pris une chair semblable, une chair de péché. Mais de fait, quand on dit chair, on dit l'existence, ça connote à la fois pour le Christ l'existence pleinement humaine et donc fragile, comme il peut le
dire. Oui.
En revanche, ça perd complètement ce qui est très important, donc, ce que Henri de Francis disait, le côté unité organisée. On l'a dans
le soma.
Quand il pense à l'Église, il ne va pas parler de la sarx. Sarx, ça peut connoter le corps historique de Jésus.
Oui, éventuellement. Mais la plupart du temps, ça sera dans l'opposition chair-esprit du côté de l'homme.
Alors ça, voilà. Quand c'est ça, il ne va pas aussi pour... Mais voilà.
C'est ça qui sera le plus. Alors que nous, nous avons en tête l'utilisation johannique de Sarx, dont le verbe s'est fait chair, donc dans la théologie johannique. À ce moment-là, on a ce verset central pour comprendre l'incarnation.
Ce qui est sûr, c'est que Sarx et Aïma, ça va bien ensemble, alors que Soma et Aïma, c'est complètement boîtier comme binôme. Donc, autant chair et sang, c'est normal comme. C'est une expression. Autant corps et sang, ça ne marche pas bien, parce que le corps est composé de chair et sang.
D'accord, oui, on peut dire.
Alors, c'est pour ça qu'on dit souvent dans ces paroles eucharistiques, Jésus les a prédites
en grec.
Alors, il a sans doute employé le mot bassard qui serait mieux traduit par chair que par corps. Enfin, donc ça serait Saint Jean qui aurait gardé, qui traduit le mieux, hein, parce que en Jean 6, il y en a qui mange ma chair et boit mon sang, tout ça. Là. Donc, ma chair est vraiment nourriture et mon sang. Mais quand Paul, lui, traduit par soma, c'est pas idiot parce qu'il déploie des effets de l'Eucharistie qui est justement l'effet de construire l'Église.
Il y avait une question.
Je reviens sur avec lui et en lui.
Oui.
Je trouve ça, c'est qu'on est quand on communique, du coup, à la fin, on soit un autre et en même temps nous-mêmes. Enfin, si on
oui.
Est avec lui et en lui. Et ça, je trouve ça un peu mystérieux, quoi.
Oui.
Donc, je trouve que
Donc le par lui, avec lui et en lui. Donc d'abord, si je pars de la doxologie et conclue la prière eucharistique, il s'agit d'offrir au Père le Fils dans son acte d'offrande sur la croix. Et nous rendons gloire au Père par le Christ. Ça, c'est son rôle de médiation. Toute action de grâce rendu au Père, passe par le Fils. Il est le seul médiateur. Cela va se faire avec le Fils, puisque nous pouvons également nous offrir avec lui. Et donc, c'est cela qui est également dit dans les prières eucharistiques, que le Père puisse reconnaître dans les pauvres choses que nous offrons, un peu de vin, un peu de pain, un peu de vin, ou bien nos humanités, ce que nous sommes, notre vie, et reconnaître l'offrande même du Christ et la glisser dans l'offrande du Christ pour qu'elle soit agréée par le Père. C'est dans la première prière eucharistique que vous avez le mieux déployé la théologie de l'agrément de l'offrande. Pour qu'une offrande puisse être offerte, il faut qu'elle soit agréée, qu'elle soit pure, qu'elle soit sainte. Dans le judaïsme, on a toutes sortes de filtres pour permettre ça. Du côté du prêtre, du côté de la victime, et puis du côté du lieu où c'est offert. Dans l'Eucharistie, tout ça est rendu possible parce que le prêtre est saint, que la victime est sainte, c'est lui-même. Et donc nous pouvons agréer ce que nous offrons et qui est nous-mêmes et qui n'est pas terrible, parce que nous l'offrons avec le Christ. Mais ça ne suffirait pas, parce qu'on pourrait dire mettre un canard boiteux avec un mouton sans tache, ça ne va pas. Eh bien, c'est en lui, nous avons été députés au culte et rendus capables par son action d'être pris dans l'offrande et d'être pris en lui qui s'offre. Ça va ? Voilà. Donc c'est ça qui est dans la doxologie et que nous retrouvons dans la communion qui nous permet de recevoir les fruits.
C'est plutôt à ça que je pensais.
De recevoir les fruits.
Parce que là, Francis a développé le côté sacrifice, c'est-à-dire
oui.
On s'offre avec le Christ. Mais même en lui, si ce n'est pas en lui, notre offrande n'a pas une chance.
Ça, c'est la médiation ascendante.
Et puis, il y a une médiation descendante. Alors, c'est plutôt à celle-ci que. Enfin, c'est peut-être la plus frappante, c'est de dire si je communie au Christ, je communie aussi à l'Église. Alors, il ne faudrait pas dire bon, ben, du coup, il y a une présence réelle de l'Église dans l'Eucharistie qui serait du même ordre que la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Parce que, par exemple, quand on adore quand l'Église adore. Le sacrement de l'Eucharistie, elle ne s'adore pas elle-même. Mais c'est quand même très profond de dire, par sa nature même, l'Eucharistie, elle n'est pas individualiste. C'est-à-dire que je ne peux pas, à cause du sacrement, être en communion avec le Christ sans être en communion avec mes frères. Alors c'est pour ça, ce que dit Augustin, il insiste beaucoup là-dessus. Hein, il dit, nous, quand on dit le corps du Christ, et puis que vous répondez Amen tout à l'heure, je ne pense pas que vous pensiez au corps ecclésial. Spontanément, on dit Amen, oui, bien que je ne le vois pas. C'est le corps, alors est-ce qu'on va dire historique, il faudrait peut-être dire ressuscité, présent dans le mystère, donc on pense à Jésus comme individu. Et Augustin dit, mais quand tu dis Amen, tu dois aussi penser que tu es avec ton frère, en fait, vous êtes ensemble dans le Christ. Donc ça, c'est côté tout médiation de descendance, mais et, qui est en particulier à la médiation ascendante. C'est pour ça que quand Paul en Corinthiens dit, mais si tu ne discernes pas le corps, tu manges ta propre condamnation, donc ça c'est l'Eucharistie qui tue. Ce qui continue en disant, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de malades parmi vous, même les gens sont morts. L'Eucharistie qui tue, donc j'ai envie de dire, je parle plus souvent là-dessus, donc vous savez le faire, j'en sais mis. Alors, celui qui ne discerne pas le corps, sans doute qu'il s'agit moins du corps eucharistique, ce que nous on appelle, de manière pas géniale d'ailleurs, la présence réelle, enfin, disons, imprécise, que l'Église. Parce que c'est dans le contexte où il dit, vous faites n'importe quoi dans votre célébration, ou visiblement, vous ne respectez pas la charité, et puis vous recevez la charité dans le sacrement. Il faut discerner le corps, ça serait plutôt le corps ecclésial en tout cas.
Oui.
N'opposons pas les deux, hein, bien sûr.
Il y avait une question au fond, là, un bras qui doit appartenir à un corps, je pense. Oui, voilà.
On dirait du Saint-Paul, Francis.
Oui.
C'est justement sur cette question, en fait, j'ai l'impression qu'il y a différentes images pour comprendre les rapports entre le Christ et l'Église. Il y a d'abord la tête par rapport au corps, donc l'Église, c'est les membres par rapport à la tête, et ensuite l'Église qui est corps mystique du Christ, donc c'est lui-même. Et la troisième image, c'est celle de l'épouse. L'Église est l'épouse de l'Église du Christ, donc c'est pas lui-même.
Oui, tout à fait. Alors cette, donc,
ma cette question, c'est
très bien, oui.
Ces trois images, c'est trois aspects d'une même réalité, ou alors dans la tête de Paul, c'est bien trois images différentes.
Alors ce sont des niveaux symboliques différents. On est toujours au niveau d'un langage qui nous fait passer de ce que nous expérimentons à ce qui est vécu à ce qui est proposé par Dieu pour nous rejoindre et nous sauver. Et la complémentarité entre l'Église du corps avec ses membres, ou de la tête et du corps, par rapport à l'Église épouse du Christ époux, c'est que cette dernière désignation permet le vis-à-vis et permet le face-à-face. Donc permet de dire que nous ne sommes pas simplement dans le Christ d'une manière qui nous ferait disparaître dans le Christ, mais d'une manière qui au contraire nous personnalise toujours davantage. Plus nous sommes dans le Christ, plus nous sommes personne dans le Christ. Et donc l'idée de l'épouse permet de dire ce vis-à-vis amoureux de l'alliance. Donc c'est pour ça que les deux sont étroitement liés dans ce chapitre 5 des Éphésiens. C'est très, très important.
Non, elles ne sont pas juxtaposées.
C'est pas juxtaposé.
Parce que là, c'est là où il va jouer sur un assez de chair à corps, c'est que comme en Genèse 2, on a c'est bon, un homme s'attachera, son père et sa mère s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair, Paul dit, quand l'homme s'unit à sa femme, en fait, c'est son propre corps. C'est-à-dire que la dimension dans l'Église, il y a à la fois une dimension d'immanence, l'Église elle est immanente au Christ, mais il y a aussi une dimension de vis-à-vis. Et la métaphore conjugale, c'est ça sa force, c'est qu'elle joue sur les deux. Elle dit à la fois la distinction de l'épouse et de l'époux, mais par ailleurs elle dit aussi l'immanence à cause de l'acte conjugal, parce qu'ils deviennent un seul corps.
Un seul bâtard.
Ce qui veut dire que quand on dit que le Christ est la tête de l'Église, à la fois on peut penser qu'il y a une tête et puis un corps en dessous, et on peut penser aussi à un homme qui s'unit à sa femme, c'est le bon en même temps. Et par ailleurs, en 1 Corinthiens 12, il dit que l'homme, de manière générale, c'est le chef de sa femme. Ah bon, on ne va pas rentrer dans le débat, mais disons qu'on revient que...
Ça sera une autre conférence.
Dans l'idée que le capote, c'est la tête, en fait, c'est qu'il fallait, mais la marque d'autorité, ça joue aussi dans l'histoire. Le Christ a autorité sur son corps, il est l'Église.
Dans la soumission mutuelle.
Donc la métaphore des discours du Christ, c'est qu'il y a quelque chose de responsable dedans. Ça, c'est...
Oui, ça c'est très important pour ta thèse.
Pour ma thèse, c'est-à-dire ?
Le doctorat.
Non, j'en parle pas du tout.
T'en parles pas de ça ?
Ben non, je parle de tout à fait autre chose.
Ça fait rien. Tu pourrais ?
Du sacrifice eucharistique.
Elle ne te parle pas de ça ?
Ah ben non.
Ah bah zut alors, tu aurais
pu... Je parle de tout, non, en fait, c'est pas une seule fois que je me trompe.
Alors, ça fait pas le sens. Faudra que tu rajoutes une partie. Bon, ben, ça fait une heure hein, qu'on est ensemble, donc on va arrêter, là, parce que vous avez tous sommeil.
Merci. Merci. Nous avons l'habitude de terminer par un peu de logistique.
Ah oui,
et si t'es pressé, tu peux partir tout de suite.
Oh là là, j'ai tout le temps. Faut arrêter la machine.